Alors en tout cas, voilà, puisque ce verset a été dit, je ne traduis pas la fin, ça se ferait trop tard. Ce verset a été dit. C'est la question de Maïmonide. Pourquoi punir le pharaon et les Égyptiens? C'est prévu dans la marche du monde. Est-ce que c'est clair? Voilà comment le Rambam répond. Ce n'est pas du tout un décret que Dieu décide que les Égyptiens se conduiraient comme ça. Dieu, nous dit Maïmonide, prévient les Hébreux de ce qui va se passer d'après les lois des fonctionnements des sociétés humaines. Tel que le créateur du monde a créé ce monde, il y a des lois même en sociologie. Nous sommes de nouveau en monothéisme stricte. Alors, Abraham est averti, sa descendance est avertie de lui. Sachez que vous allez être ailleurs que chez vous. Voilà ce qui va arriver. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne lorsque une minorité étrangère s'installe dans une métropole impérialiste. Exactement dans toutes les sociétés. Lorsqu'une minorité étrangère s'installe dans un régime qui devient totalitaire, inévitablement, le racisme apparaît, la xénophobie apparaît. C'est-à-dire que, ça c'est, je vous cite Maïmonide, qui dit, Dieu prévient Abraham, à travers Abraham, prévient Israël, de ce qui va arriver, dans quelle clause, quand, dans quelle éventualité. Ce que la Torah va nous raconter, quand les Hébreux se sont installés en Égypte, ils se sont installés en Égypte, et comme Hébreux. Alors le temps, avec le temps, phénomène de saturation, inévitablement, ça s'est produit étape par étape. Est-ce que c'est clair? Il y avait un temps de gloire, le temps de Joseph. Mais après le temps de gloire, le temps de Joseph, il fallait décrocher. Or, qu'est-ce qui s'est produit? On s'est entêté à rester dans cette ambivalence qui a rendu les Égyptiens ceux qui sont devenus oppresseurs. Je vous raconte une petite histoire que j'ai souvent racontée. Je la résume beaucoup parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Parce qu'elle est exemplaire de ce qui arrive aux minorités juives dans les sociétés goyes. Bon, c'est l'histoire d'un juif polonais qui, fuyant les persécutions des ghettos de Pologne, s'installe en Allemagne dans les années 20, après la guerre mondiale, après au temps de la République de Weimar. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était un juif fuyant la vie des ghettos, la persécution polonaise, devenant citoyen allemand par promotion sociale fulgurante de tous les juifs sortis de tous les ghettos, y compris Marrakech, et je parle de propagande, hein, Meknès aussi. Il devient très rapidement citoyen de la République allemande et professeur à l'université de Berlin. Je raccourcis. Les années 30 arrivent, l'hitlérisme arrive. Il avait un ami qui était professeur à l'université de Berlin, mais lui qui était allemand, l'ami, et qui lui dit, mon cher ami, ce qui se passe ici maintenant, c'est très grave pour toi, tiens donc en Amérique, vas-y. Et l'autre qui répond tranquillement, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je suis citoyen allemand, professeur à l'université de Berlin, je suis protégé par les lois allemandes, ils s'entêtent. L'allemand lui dit, mais alors si toi, tu es citoyen allemand, protégé par les lois allemandes, moi, c'est l'allemand qui dit, moi, qu'est-ce que je suis? Vous savez, qu'est-ce qu'il lui répond? Toi, t'es goy. Résultat, comme j'ai l'habitude de dire, mais c'est tragique, la fureur de l'allemand, mais c'était le fureur. C'est-à-dire, on les a rendus furieux. Alors, imaginez ce qui se passe. Les Hébreux s'installent en Égypte. Bon, il y a une fonction, Joseph, racontée par la Torah. Il faut sanctifier l'Égypte, sauver la civilisation, se mettre au service des valeurs du temps. Bon, et puis, qu'est-ce qu'on fait? On s'installe. On s'installe, et puis on s'installe comme hébreux en Égypte. À la fin, réaction racontée dans les premiers versets du livre de Shmuel, Habanit Hakemalo, Penirbe, Venosal Gamboum, cinquième colonne, toutes les accusations. Mais il y a un phénomène de saturation qui, une fois dépassé, déclenche ce processus. Je continue à citer le Maïmonide. C'est ça que Dieu annonce à Abraham. C'est pas qu'il a décidé par caprice de tout-puissant de faire que les Égyptiens vont persécuter les Hébreux. Il va avertir les Hébreux de ce qui risque d'arriver si cette histoire se développe. Il fait un cours de sociologie à Abraham. Est-ce que c'est clair? Et alors, Maïmonide ajoute, donc, les Égyptiens ne vont pas être punis d'avoir été xénophobes, ils vont être punis d'avoir exagéré. Ils vont être punis d'avoir mené leur sentiment naturel de xénophobie déclenché lorsque le seuil de saturation a dépassé, d'avoir frappé trop dur, d'avoir été méchant. Ça, c'est l'explication de Maïmonide, et elle est très cohérente. Mais on a évacué l'objection de tout à l'heure, en théologie. Je vais poser une question sur l'enseignement de Maïmonide, mais j'espère que c'est suffisamment clair. Je veux dire, vous voyez ce qui se passe lorsqu'une minorité s'entête à dire « je suis comme toi », mais au moment où Le Goll lui dit « ah, tu es comme moi », il dit « non, moi je suis juif ». C'est la fureur qui s'installe. Est-ce que c'est clair? La femme de Potiphar, qui voit la beauté de Joseph, « tu es beau, je veux avoir un enfant de toi », elle dit « de toi, jamais, moi je suis hébreu ». Alors elle convoque son mari, punis-le. Il m'a frustré. Je le voulais et il me laisse son vêtement, son déguisement. Vous voyez ce drame-là? Est-ce que c'est clair? Donc, l'objection à cet enseignement de Maïmonide, qui ne manque pas de cohérence et de puissance et de force, c'est que, on ne se rend pas compte, mais est-ce que Maïmonide prend les Égyptiens pour des anges? Les Égyptiens sont des Égyptiens. Et à partir du moment où ça leur arrive, et ben, ils sont lépénistes, ils sont nazis, ils sont ce que vous voudrez. Il faudrait qu'ils soient des anges pour que ça se passe autrement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, les Égyptiens ne sont pas des anges, ils sont des Égyptiens. Ah, il faut se méfier. Voilà. Voilà ce qui s'est passé et que raconte la Torah. Est-ce que c'est clair? Par conséquent, l'explication de Maïmonide est vraie. Si les Égyptiens étaient au niveau de Maïmonide. Mais les Égyptiens ne sont pas au niveau de Maïmonide. Les Égyptiens, c'est des Égyptiens. Voilà, il faudrait ajouter cette clause à l'explication de Maïmonide. Voilà comment ça serait si les Égyptiens étaient comme des dévots. Mais les Égyptiens ne sont pas comme les Hébreux. Vous voyez, le piège de non-négociation avec nos amis à chaque fois, on raisonne comme si c'était des Hébreux. Alors effectivement, si c'était des Hébreux, ça marche très bien. Un Hébreu n'excuse pas les étrangers, transfère, j'avais dit. Un Hébreu. Mais dès qu'il s'agit du transfert des Hébreux, pourquoi pas? Donc voilà, c'est ça le problème. Attendez, non, ne m'interrompez pas. Attendez toujours que j'ai fini, parce que chaque fois, j'ai tellement de versets qui sont... Il se presse au portillon, je crois que c'est en général ce qu'il faut dire à l'enseignement de Maïmonide. Je le dis souvent, l'enseignement de Maïmonide est un enseignement très aristocratique. Il parle pour les vrais hommes au niveau de Maïmonide. Mais j'ai l'impression qu'on veut dire au niveau de Maïmonide, il y a Maïmonide, il n'y a pas les Égyptiens. Est-ce que c'est clair la
journée? Non, je ne sais pas si.
Donc, soyez disciplinés. Ça fait 6000 ans que ça dure. Tu me fais déjà penser à autre chose. Donc, je veux dire, qu'est-ce que je disais juste avant? Je vais vous donner un exemple, d'ailleurs. Ça veut dire, au fond, cet enseignement de Maïmonide, c'est pas du tout, comme on dit dans le Talmud, quand un maître répond avec des arguments qui sont enfantins, on a dit, bon, lui, tu l'as repoussé avec une paille, une cache. À moi, qu'est-ce que tu vas dire? Je crois que ce que je veux dire de façon générale, c'est que Maïmonide, c'est pas une pirouette. Il veut nous avertir, méfiez-vous. Voilà ce qui se passe. Est-ce que c'est clair? Or, jamais les rabbins ne diront, et Maïmonide en tête, ce sont les juifs, les hébreux qui sont responsables de ce qui leur arrive. Jamais les rabbins ne diront ça. On n'a pas le droit de calomnier les juifs. Ça, c'est évident. Mais vous voyez l'avertissement qu'il y a derrière. Il dit, faites attention, voilà ce qui se passe. Est-ce que c'est clair? Donc, et je vous donnerai l'exemple qui m'a toujours frappé dans l'enseignement de Maïmonide. Pour bien comprendre Maïmonide, il faut se mettre à sa hauteur. C'est lorsqu'il enseigne de manière tellement radicale, tranquille, sereine, que l'homme est libre, un point. Voilà le bien, voilà le mal, je t'ai fait libre, tu choisiras le bien, c'est toi qui es responsable si tu choisis le mal. Et Maïmonide était médecin. Il sait très bien que l'homme n'est que quasiment libre et chacun dans le conditionnement où il est. Et il connaît le conditionnement, il est décrit tant dans le Mishneh Torah que dans les Shmoneh Pratim que dans son commentaire sur le Talmud. Il décrit le premier grand psychologue de la tradition juive qui a systématisé l'enseignement de psychologie nécessaire pour aborder le problème moral. Il connaît très bien les limites du conditionnement de la liberté de chacun. Et pourtant, il nous dit tranquillement, l'homme est libre. Il parle des hommes entièrement hommes, enfin entièrement libérés, alors ils sont libres. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et c'est un exemple extrêmement éclairant. Il y a beaucoup de petits philosophes qui objectent à Maïmonide, mais enfin Maïmonide ne sait pas que nous sommes conditionnés. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes libres de manière aussi quiétiste? Hein? Le Maïmonide, c'est un médecin. Il sait très bien de quoi il parle. Alors là, il y a un avertissement. Est-ce que c'est clair? Bon, je referme la parenthèse. Qui voulait poser une question à cette fois?
Je n'ai pas compris. Tu dis que donc Maïmonide explique la cohérence sociologique. À un moment donné, ce qu'on appelle le phénomène de rejet quand une société est minoritaire, etc. Bon, mais et alors que ce qui est demandé aux Égyptiens, c'est de ne pas exagérer. Mais tout ça, c'est très cohérent. En quoi est-ce que c'est très très haut? En quoi? Mais c'est ce qu'on a vécu, c'est qui est.
Eh bien, je vais te raconter l'histoire. Et mettez-vous, c'est difficile de se mettre à la place des autres. Nous avons été tellement habitués à apprendre cela. Les Égyptiens, c'est des barbares. Et les Hébreux, c'est des petits. Que ça ne marche pas. Hein? Mais je vais raconter une histoire. Vous savez, quand j'habitais à Paris, j'habitais le 9e arrondissement. Dans le 9e arrondissement, il y a longtemps, hein, il y avait un seul restaurant cachet. C'était ceux qui connaissent le 9e arrondissement aujourd'hui, ils savent que ça a changé. Hein. C'était un petit restaurant ashkenaz caché dans une cour au fond d'un immeuble de la rue Saulnier. Et pour arriver au restaurant cochet, il fallait passer par une porte cochet. C'est-à-dire, c'était clandestin. Hein. Il y avait eu 2000 ans de vie des Juifs. Ashkenaz, disons, en Europe, en France, qui était habitué à savoir comment on se comporte quand on sait qu'on n'est pas chez soi. Hein? Et puis, je me rappelle très bien que pour aller manger kasher, il fallait arriver au seul restaurant qu'il y avait juste après la guerre. Ceux qui ont été étudiants avant l'arrivée d'un Nord-Africain, pour manger kasher à Paris, il fallait le faire. Hein? Et c'était pas grâce au consistoire. Ils ne savaient pas ce que c'était le kasher. On ne va pas à l'époque. En tout cas, pour revenir à l'histoire, finalement, le temps a marché et les Nord-Africains sont arrivés. Alors, les Juifs nord-africains, dont je suis, hein, c'est pas l'antisémitisme, les Juifs nord-africains ont vécu une vie en Afrique du Nord où ils étaient chez eux, en minorité nationale, dans leur quartier, dans leur ville. Ça n'a rien à voir avec la vie des Juifs en France. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Et ils arrivent avec leur certitude juive ancestrale. On est chez nous. D'autant plus qu'il parlait français en plus. Il est persuadé qu'il parlait français avec un accent authentique, alors que les autres, les Parisiens, ils parlaient pointu, comme on dit. Mais allez vous balader, on a bien un arrondissement, vous voyez, ça dépasse l'imagination. Kafka, c'est Uburo. En tout cas, pour revenir au sujet, alors vous avez des tas de panonceaux, charcuterie, cachère, garantie par le grand rabbin Intel, et puis. Le sur-grand rabbin tel. Imaginez, c'est pas bruit du 9e arrondissement qui passe dans ces rues-là. Ou boucherie cachère, Beddin. C'est que c'est un restaurant Beddin. C'est un restaurant où les gens Beddin. C'est en maître d'affiche. Alors, imaginez que c'est pas bruit du 9e arrondissement. La réaction. Alors, ils vont manger la cochonnerie. Voilà, alors, essayez de les mettre à la place, alors que c'est eux qui sont chez eux. Quand vous avez un restaurant vietnamien, il me dit restaurant vietnamien, spécialité extrêmement orientale. Mais un restaurant israélite-français, caché. Alors, une fois, je me baladais donc dans la rue Rigé, je ne sais pas ce que c'est, en vache. Rue, la rue des Folies Bergères. J'ai eu l'impression, il y a des années, nous avons à Haïfa des quartiers arabes chrétiens. Alors imaginez qu'un restaurateur arabe chrétien de Haïfa, en hébreu, vous écrive un panonceau en lettre d'affiche. Charcuterie, cochonaille, pure pomme, garantie par l'évêque du coin. Il y aurait une émeute. Non. Alors, c'est ta réponse. Et il faut savoir que c'est intersubjectif, cette histoire. Alors voilà, il y a une telle imprudence qui induit ce que ce verset décrit. Il y a dehors tes dards, méfie-toi. Voilà. Et quelle raison. Je ne me suis pas méfié. Alors attendez, je voudrais arriver au sujet. Et donc, je voudrais bien finir avec cette question de Maïmonide pour passer à un autre sujet. Donc, l'explication de Maïmonide est très cohérente, mais il ne faut pas se laisser prendre au piège. En réalité, c'est un avertissement. Et vous verrez toute la suite du récit de la fin du livre de Bréchit, de la fin du livre de la Genèse, les Juifs se sont installés imprudemment sans se rendre compte qu'ils ouvraient eux-mêmes le piège qui allait se refermer sur eux. Les Juifs, les Hébreux, je veux dire. Mais ça s'est passé comme ça partout. Vous savez, c'est depuis que je suis israélien que j'ai, disons, pas seulement le courage, mais c'est la possibilité de me mettre à la place des Français. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que tant que je me prenais pour un Français, puisque j'étais algérien... mais depuis que je suis israélien, j'en apprécie d'autant mieux que ça veut dire être français en soi. Et d'arriver, ne serait-ce que par l'imagination, à se mettre à leur place, mais moi je suis pris d'admiration pour leur patience. C'est clair, non? Alors, revenons au sujet. Voilà donc l'explication de Maïmonide. Alors il faut se demander, alors qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Pourquoi ces pauvres Égyptiens ont reçu 10 clés?
Est-ce que le premier stade, selon Maïmonide, le premier stade qui gagne les arachas, ça veut dire qu'ils vont partir envers nous, ça fait aussi partie du processus sociologique?
Oui, très bien. Alors, ça fait rien si j'arrive pas au sujet. Je vous fais confiance que vous me poserez la question l'année prochaine. Je n'ai pas dit la semaine prochaine, l'année prochaine, mais je vais entrer dans cette question. Et cette question aussi a été posée par les commentateurs. Est-ce que, n'arrivons pas encore aux causes de la galoute, mais est-ce que, ou à la fonction de la galoute, à la finalité de la galoute, et ensuite à la fatalité des processus que j'essaie de décrire en citant, comme un moment, il y a d'autres enseignements là-dessus. Est-ce que c'est pas paradoxal, c'est pas tellement paradoxal, que la première annonce de Dieu qui confirme à la descendance d'Abraham sa terre, ça soit l'annonce de l'exil? Regardez comment ça se passe. Abraham, pour les raisons que nous avons vues tout à l'heure, demande à Dieu un signe pour que le rassurer que, malgré sa perplexité, eh bien, sa descendance possédera cette terre. Quel signe lui donne Dieu? On ne se rend pas compte de ce qu'on dit. As-tu veux savoir quelle est la preuve que cette terre t'appartient, ta descendance sera en exil. Quel rapport? Voici, vous voyez, c'est plus que paradoxal, cherche un mot en français. C'est incohérent. C'est contradictoire. Je donnerai deux réponses. La première réponse, que j'ai souvent l'habitude de citer, je vous cite ici un livre très important du frère du Maharal de Prague, qui est peu connu parce que le Maharal de Prague est tellement connu qu'il éclipse un peu son frère, qui s'appelait Chaim. Le Maharal s'appelait, lui, Yehuda ben Betzalel. Son frère s'appelait Chaim ben Betzalel. Il a écrit entre autres un livre qui s'appelle Sefer HaChaim. Et dans ce livre-là, il donne 14 explications, 14 ou 15, je crois que c'est 14 explications de l'exil, de la réponse à la question pourquoi il y a eu l'exil. Une de ces explications, je vais citer pour répondre à la question. Et que je résume pour la rendre lapidaire. Abraham demande, quel est le signe qui me rendra sûr que cette terre est la mienne? Alors Dieu lui répond, quoi, tu n'es pas sûr que cette terre est la tienne? Alors tu iras ailleurs. Et quand tu seras sûr qu'ailleurs ce n'est pas chez toi, tu reviendras. C'est clair. Or c'est ce qui nous est arrivé. Qui est revenu en Israël? Quels que soient les cheminements personnels, d'équations personnelles, individuelles de chacun, ceux qui ont pris acte, qui sont pas chez eux. Et comment ils définissent le sionisme négatif? Nous sommes chez nous ici. Mais c'est autre chose qui s'est passé, c'est qu'ils n'étaient pas chez eux ailleurs. Sauf les vrais pionniers, les vrais sionistes, qui sont venus ici pour être chez eux. Vous voyez ce qui se passe? Il y a tellement de juifs qui sont venus ici parce qu'ils n'étaient pas chez eux ailleurs, que ça ne va pas très bien ici pour eux. C'est qui? Maître Tanu. Il est au téléphone. Tu lui dis que à 8h15, je l'appelle. J'ai oublié qu'il s'agit, mais à 8h15, ça suffit. Et le rabat-sour, rappelez-le. Qu'est-ce que je disais? Oui. Il y a tellement de juifs, de vrais sionistes, mais qui sont ici parce que ils étaient motivés par cette expérience que décrit le Rav Chaim, que chez ailleurs ils n'étaient pas chez eux, mais il n'y avait pas vraiment la motivation que c'est ici qu'ils sont chez eux, que finalement ils se conduisent comme si ici ce n'était pas chez eux, c'est chez les cousins. Vous avez compris le problème? Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un livre qui a été préparé il y a un an, qui est apparu en septembre, une espèce de coïncidence, qui a été préparé par Ilan Gazamer, qui est un des professeurs de politologie de l'Université Paris-Lab. Il a demandé à une dizaine de professeurs israéliens, dont il m'a demandé un chapitre là-dessus, de parler du problème des droits réciproques des Juifs et des Arabes sur les Israéliens. Et ça a apparu au moment des accords de septembre d'ailleurs. Ça a fait un succès de librairie, mais ce n'était pas calculé pour. Hein. Au moment où on a écrit ce livre, on ne pensait pas du tout que c'était déjà en cours. Et alors, dans sa préface, il dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il dit clairement, pour la majorité des Israéliens, le lien à la terre, c'est un lien de tourisme ou d'archéologie. Vous entendez ? Bon, en fait, ce n'est pas vrai. C'est pas du tout vrai pour les sionistes qui sont arrivés ici. Les sionistes sont arrivés ici, croyants ou pas croyants, pratiquants ou pas pratiquants, sont venus reconstruire leur patrie. Et en plus, ils faisaient du tourisme et de l'archéologie. Mais la première génération des descendants, elle, a fait du tourisme et de l'archéologie et met en question le fait, est-ce que c'est notre patrie ? Dans quel milieu ? Eh bien, dans les milieux qui sont parvenus dans leur patrie, mais qui sont partis des non-patries où on ne les a pas acceptés. Est-ce que c'est clair ? Ça va dans ce sens. Alors, une des explications du frère du Maral que je vous cite rend la question cohérente. Le seul moyen d'être sûr, si tu as un doute, est-ce que tu es chez toi, va chez les autres. Quand ce doute sera évacué, tu reviendras chez toi. Non, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, voilà comment le Maral, cette fois, reprend votre question. Il dit la manière suivante. En Abraham, ce doute, c'est pas un doute, c'est une perplexité qui est une vertu. Vertu exagérée, mais lui la voit. Je ne reviens pas à ce que je dis là-dessus. Mais si sa descendance a ce doute, c'est une faute. Et ce doute dans sa descendance étant une faute, sera puni par l'exil. Mais finalement, l'exil punit quoi ? L'exil punit l'exil. Et puis, c'est une légende de dire que l'exil punit nos fautes. Ça contredit toute la théologie de la Torah. Une certaine génération aurait fauté, et ses descendants sont punis pour la faute des enfants. Si le péché originel a la comment on les appelle cela, pire que les protestants chez les catholiques, les jansénistes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout juif ça. Comment une génération aurait fauté et puis 2000 ans de leurs descendants auraient été punis de la faute de la génération qui est partie en exil? Vous voyez, c'est le péché originel, ça n'existe pas. Enfin, à ce niveau-là. En fait, l'exil punit l'exil. L'exil punit l'entêtement de rester dans l'exil. Et c'est Isaïe qui l'enseigne, le prophète Isaïe. Il arrive, vous voulez pas revenir, il arrivera un temps où vous ne pourrez pas revenir. Ça vous punira de ne pas être revenu, vous ne pourrez pas revenir. C'est Isaïe qui dit. Et je crois que la Sornout, inconsciemment, réaliste, elle empêche la lumière. Vous avez remarqué ? Elle empêche la lumière. Vous n'avez pas remarqué ça ? Je me rappelle que lorsque. Ils ont décrit comme une sélectivité dont ils vont chercher le secret chez les Américains. En tout cas, pour revenir au. On n'est pas là en politique israélienne. Et je vous donne simplement mon exemple personnel. Le jour où j'ai décidé, parce que mon maître me l'a dit, allez, c'est fini, tu rentres, je suis allé à la sortie. On m'a regardé comme un fou. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il ne t'occupe pas, c'est mon affaire, c'est pas ça. Mais c'est le chaliard qui m'a dit ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Il m'a regardé perplexe. Comment tu gagnes ta vie? Tu es connu honorablement. Il n'y a pas d'antisémitisme. Tu es professeur d'université. Toi, un nord-africain. Et puis tu t'en vas là-bas. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Alors je lui dis, bon, eh bien, c'est bien ce que le rabbin m'avait dit. C'est urgent. Bon, voilà donc le problème. Et je crois qu'à travers ça, c'est beaucoup plus. Alors j'arrive quand même pour les quelques minutes qui nous restent. À l'essentiel. En fait, vous lirez le premier verset de la paracha de Bouf. Je vais le lire avec vous très rapidement. Il donne la réponse à notre question. Et ils sont donc au chapitre 10 ou 11. 10. Voilà. Vayomer Hachem le Moshe. Lorsque Moïse, ne voyant pas la délivrance arriver, voyant au contraire une accélération, une précipitation de l'asservissement, demande à Dieu dans le verset précédent, Rachel, la paracha de Réva. Pourquoi cela arrive-t-il comme cela? C'est un autre sujet. Alors Dieu lui répond. Voyons Hachem le Moshe. Et Dieu dit à Moïse, Boel Paro, viens chez le Pharaon. Le sens c'est va chez le pharaon, mais en hébreu c'est viens chez le pharaon. C'est-à-dire la voix qui parle à Moïse, elle est chez le pharaon, il dit viens chez le pharaon. Le midrash de Zohar a dit flic pour me délivrer. Je donne cette indication pour dire si on avait le temps, qu'est-ce qu'on aurait étudié. Bon, enfin, je reviens au sujet. La Shrina est en exil, quand Israël est en exil. Alors elle parle du dedans de l'exil où elle doit être délivrée pour demander à Moïse, viens me délivrer. Bon, elle parle, je veux dire, l'air est là. Les dames rien vont me dire que pour dire l'air, on dit pour tout le sable ici. La question est qui a mis Ichbatir Kiboveta Varana? Car c'est moi qui a appesanti son cœur et le cœur de ses serviteurs, les Mahanchit qui ont totalé Bichon, afin de placer mes signes en son sein. Ou le Mahan qui est sa paix, deux raisons. Premièrement, pour que les Égyptiens me reconnaissent. Et afin que tu racontes aux oreilles du confis et de ton petit-fils et t'achètes à l'alti de l'Israël ce que j'ai fait à lui. Alors voilà, je schématise. L'essentiel de ce qu'il nous dit ici est tout à fait autre chose. Voilà, je vais vous l'expliquer sans passer par tout le détail de l'argumentation et de l'analyse, mais pour arriver à l'idée essentielle. Vous étiez en Égypte, en vue de quoi? C'est un autre sujet, mais quoi qu'il en soit, il y a une finalité. Et vous n'avez pas réussi dans votre mission. Alors prends patience, Moïse. Je vais faire, moi, ce que vous n'avez pas réussi à faire, et quand j'aurai réussi, seulement vous sortirez. Est-ce que c'est clair? Et en plus, avec ça, il y a eu ces deux autres dimensions. D'une part, obliger les Égyptiens à laisser partir de leur propre volonté, les Égyptiens du Pharaon, de donner le feu vert pour la sortie, parce qu'il y avait un contrat de travail de 400 ans, et que c'est 190 ans avant la fin, pour pas que le peuple risque de disparaître, que je décide que Moïse ferait la sortie d'Égypte, sur son ordre, hein, et d'autre part, de punir les Égyptiens du mal qu'ils avaient fait. Mais c'est deux dimensions importantes, mais secondes. La dimension centrale, qui nous est dit en clair dans le récit. Quoi qu'il en soit, c'est ce que racontent les Hébreux et les Juifs dans leur exil. Nous sommes là en mission de dévoiler le nom de Dieu chez les nations. Ben, vous ne l'avez pas fait, attendez que je le fasse. Il ne faut pas que cette histoire n'ait servi à rien. Alors prenez patience jusqu'à ce que ça se dévoile. Et que les Égyptiens me reconnaissent, et que vous puissiez expliquer à vos descendants qui ne le croiront pas, que le Créateur intervient dans l'histoire. Enfin, c'est ça la foi d'Israël. J'ai schématisé, mais je ne sais pas si c'est suffisant. Et alors, le processus, c'est le processus des 10 plaies. Le temps qui me reste, je l'expliquerai assez schématiquement, mais vous aurez quand même 5 minutes pour me dire si c'est suffisamment clair. La mentalité spirituelle, philosophique et religieuse de l'Égypte de ce temps, c'était ce que les historiens des religions appellent l'astrobiologie, c'est-à-dire une correspondance entre les forces cosmiques et la vie terrestre. La vie terrestre déterminée de manière fatale par le mouvement des astres. C'était les grandes religions païennes de l'Antiquité que les modernes sont incapables de comprendre. L'astrologie moderne tente un peu d'essayer de rationaliser qu'est-ce que c'était que l'astrologie de l'Antiquité. Mais pour les spécialistes de ces religions de l'Antiquité, le principe est le suivant, tout est déterminé dans le monde, tous les phénomènes sont déterminés, le phénomène de la vie aussi est déterminé par ce que, de manière folklorique, on appelle l'horoscope, c'est-à-dire la situation des astres telle qu'ils influent sur la vie biologique. C'est clair, suffisamment clair? Ça, c'est la sensibilité religieuse des grands paganismes de l'Antiquité. Et par conséquent, le rôle de l'Israël hébreu, c'est d'introduire une révélation qu'au-delà des déterminations cosmiques, il y a la volonté transcendante et libre du Créateur. C'est cela qu'Israël doit révéler au monde, le nom de Dieu. C'est vrai? Et alors, c'est une révélation que Joseph n'a pas réussi à réussir, en tout cas que les Hébreux n'ont pas réussi à réussir. Au lieu d'être les prêtres de l'Égypte, ils étaient les commerçants du pays de Goshen. J'ai calomnié personne, et pas les Égyptiens non plus. Et vous voyez, à quel point c'est dramatique tout ça. Alors Dieu se révèle à Moïse, il prend patience. Il faut que finalement l'Égypte finisse par découvrir ce que vous aviez à révéler, que vous n'avez pas pu révéler, et que vous en serviez de cette mémoire historique pour enseigner vos enfants de qui je suis, moi, le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, encore une fois, la volonté libre qui intervient au-delà et du dedans des conditionnements naturels que ce même Créateur a imposés dans le fonctionnement de son monde. La théologie du monothéisme hébreu, purement et simplement. Et alors, vous suivrez par là la progression de la découverte de cette révélation par le pharaon et les Égyptiens. De plus en plus, il se dévoile à eux qu'une volonté libre agit à travers le déterminisme des lois naturelles. C'est pourquoi il a fallu ces 10 degrés qui correspondent aux 10 paroles de la création et aux 10 valeurs des 10 commandements. Les 10 valeurs des 10 commandements violées par les Égyptiens, 10 punitions, et les 10 paroles de la révélation, dévoilement du nom de Dieu. J'ai beaucoup schématisé, mais j'espère que c'est suffisamment clair. C'est ça l'essentiel. Vous n'avez pas réussi à faire comprendre à cette civilisation qu'il y a une providence, ben c'est moi qui vais le faire, prenez patience jusqu'au bout. Et vous verrez cela en suivant chacune des plaies. Lorsque on arrive au stade où les Hébreux, où les Égyptiens sont obligés de reconnaître qu'une intelligence agit libre parce que la plaie touche les Égyptiens et pas les Hébreux. Quand ils s'aperçoivent de ça, ils commencent par être pris de panique. Hein? C'est là que la deuxième partie des 10 plaies commence. Chaque fois, il y a une gradation jusqu'à arriver au moment de la 10e plaie où l'intervention de la plaie se fait dans un choix ponctuel, les premiers-nés de la famille et pas n'importe quel premier-né, les premiers-nés des Égyptiens. Alors là, cette civilisation est obligée de se rendre à l'évidence, une volonté libre gère le monde. Mais imaginez le temps et le processus qu'il fallait pour qu'une telle révélation apparaisse dans une telle mentalité. Voilà, c'est ça la réponse. C'est-à-dire, l'essentiel nous est donné dans les premiers versets de notre paracha. La finalité des plaies, c'est que Dieu se révèle pour que les Égyptiens découvrent ce que les Hébreux du Lamassigne n'ont pas été capables de faire. Mais la vraie question, c'est est-ce que les Égyptiens étaient éducables? Je vous cite un midrash. Un seul a fini par comprendre, c'est le pharaon lui-même. C'est lui qui, selon le midrash, a dit Mihamocha Vahim Hashem, Mikamocha Nedab Bakodesh. Au moment où l'armée égyptienne est engloutie dans la mer, le pharaon a compris bon, c'est clair, il y a une providence. Et alors il dit avant de mourir Maccabi, Mihamocha Vahim Hashem. Et j'ai pas le temps, mais je vous citerai un midrashim là-dessus, mais c'est ça que vous comprenez. Parce que le verset dit, et ils ont disparu, Adécha, jusqu'au 1. Ça veut dire, sauf un, qui était le 1 de l'Égypte, le pharaon. Celui-là a été sauvé parce qu'il a reconnu l'Israélite. Bon, mais je reviens à votre sujet. Et puis d'autre part, si ça soit, une référence à la mémoire de votre descendance, et c'est le cas, quelle est la foi d'Israël à travers les siècles et les millénaires, c'est ce récit qu'on se raconte de génération d'année en année, de ce qui s'est passé dans cette intervention de Dieu dans l'histoire, autant la civilisation égyptienne. Et finalement, il n'y a pas que les Juifs qui puisent leur certitude de foi dans cette mémoire. Je prends encore une fois que le cas de, qui est le plus évident là-dessus, du monde chrétien, quelle est, à leur manière, la référence de foi pour les chrétiens, c'est la Pâque, qu'ils appellent les Pâques. Il y a la transmutation des concepts de Juifs à chrétiens, mais c'est l'événement de la Pâque, qu'ils prennent comme événement de la certitude du salut. Vous avez compris ça? C'est-à-dire c'est la sortie d'Égypte qui dévoile le Dieu de la Bible à l'univers entier, à travers les chrétiens. Ils ont mis 2000 ans pour se rendre compte que c'est Jérusalem qui est Jérusalem et pas Rome. Finalement, ils sont arrivés. Mais 2000 ans, pas 2000 ans. Vous voyez ce qui se passe? Pendant 2000 ans, on n'a pas réussi à faire comprendre aux Romains que c'est Jérusalem qui est Jérusalem. Il a fallu 2000 ans pour que Rome vienne à Jérusalem. Vous avez compris? Eh bien, maintenant, quel est le problème? Je résume, pour que ce soit bien clair, et vous me direz si c'est suffisamment clair, il nous reste 5 minutes avant la vie. Effectivement, c'est vrai. Il fallait délivrer Israël et punir les Égyptiens. Mais il fallait que les Égyptiens, de par leur consentement, mettent fin à l'exil d'Israël en Égypte, parce que, corollairement, ils auraient reconnu la finalité de ce voyage des Hébreux en Égypte. Et comme les choses s'accélèrent, parce que le peuple est tellement persécuté et assimilé qu'il risque de disparaître, le peuple hébreu, alors c'est Dieu qui intervient pour faire en 10 plaies ce que nous aurions dû faire en 400 ans, en une génération, si nous étions capables. Donc, je suis très impressionné par cela. Nous avons mis 2000 ans pour enseigner à l'humanité, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et pendant 2000 ans, ils n'ont entendu et pas compris. Tout le monde est sûr que c'est ça la vérité, personne ne sait comment ça fonctionne. Comment dire en hébreu, comment ça se mange. Tout le monde est sûr que, comme a dit la Bible des Hébreux, des Juifs, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'essentiel. Et comment on fait ça? Personne ne sait. Est-ce que nous aussi on sait? Est-ce qu'on sait enseigner? Vous voyez quel est le drame? Mais si j'avais le temps, je vous donnerais plusieurs dimensions du même enseignement, mais je crois que c'est l'essentiel. Alors c'est vrai, ces deux premières thèses, il faut délivrer Israël, mais il faut que l'Égypte, elle, décide qu'Israël soit délivré. Je terminerai là-dessus. Et d'autre part, corollairement, il faut qu'elle soit punie de sa méchanceté. Chaque fois qu'il y a une fin d'exil, on assiste au même phénomène. Dieu attend que les goïms donnent le feu vert, sinon on n'a pas le droit de sortir. Vous avez remarqué ça? Il faut que le pharaon, que la puissance politique du temps dise OK pour que ça puisse se faire. Tant qu'il n'a pas dit OK, il va le dire contraint et forcé, trois jours après Israël, mais c'est trop tard. C'est son consentement qu'on attend. C'est un contrat de travail entre Israël et l'humanité. Et l'humanité le ressent confusément. Et les Juifs aussi, d'ailleurs. Regardez ce qui s'est passé en Russie. Les Russes refusaient de laisser partir leurs Juifs. Et les Juifs refusaient de quitter la Russie. Jusqu'à ce que contraint et forcé les uns et les autres. Vous avez remarqué ça? Et puis, à la fin du deuxième exil, c'est la même chose. Il a fallu qu'on ait le feu vert de la puissance politique de ce temps qui était Cyrus. Tant que Cyrus, qui était la puissance politique de l'époque de la fin du deuxième exil, n'a pas dit « Alors, on se retourne à Jérusalem », ce n'était pas possible. Et là, les Goïms ont dit « Feu vert, Cyrus, okay. » Les Juifs ont dit « On est bien à Babel ». Et ils ont fondé le judaïsme babylonien, dont le dernier grand représentant, c'est la Babel aussi. Je ne sais pas si vous savez tout le monde là. Et vous avez remarqué, il s'appelle Joseph. Ce n'est pas de ma faute. En tout cas, si c'est moi qui l'avais nommé, je l'ai nommé Yehuda, parce que ça ne se passe pas comme ça. Mais moi, je l'ai échappé bien. Il m'avait nommé aussi. En tout cas, pour revenir au sujet, de notre temps, c'est la même chose. Il a fallu, au bout de 2000 ans, que la civilisation contemporaine change de principe politique. Pendant 2000 ans, c'était le principe des nationalités. Pendant ce temps-là, il y avait un peuple qui n'avait pas sa nationalité, c'était les Juifs. Quelles que soient les choses à la norme qu'il y a eu dans les autres minorités, il y avait une différence de nature. Au moment où l'humanité dite civilisée commence à envisager de renoncer à la souveraineté partielle des patries pour instituer une souveraineté universelle, ça commence par la société des nations, c'est à ce moment-là que le peuple juif réclame sa nationalité et il fallait une instance universelle pour la lui donner. Et avant qu'il y ait la SDN, on ne pouvait pas penser à la déclaration Balfour. Mais avant qu'il y ait l'ONU, on ne pouvait pas penser à l'État d'Israël. Et je ne veux juste pas dire que pour les historiens de l'ONU, il ne restera que deux choses à mettre à l'actif de la SDN et de l'ONU. Pour la SDN, enregistrer la déclaration Balfour et pour l'ONU, enregistrer la proclamation de l'État d'Israël. De quoi ils se sont occupés d'autres, tout le monde oubliera. Mais c'est la même chose. Le pharaon, Cyrus, Balfour. C'est le même processus. Mais l'essentiel, c'est cela. Est-ce que nous avons quand même réussi à faire notre travail d'exil? On n'a pas réussi, alors Dieu le fait à travers les catastrophes. Voilà le problème. Tu as encore le droit d'une question.
Oui, justement.
Celle que tu ne m'as pas posée pendant 6 minutes.
Dans cette akbala parallèle entre la sortie donc, de l'Europe, la Shoah, la sortie de l'Europe, la fin d'exil actuel et la sortie d'Égypte alors, il y avait à ce moment-là l'édit Pley. Mais je ne vois pas une correspondance d'édit Pley dans l'événement actuel de la fin d'exil.
C'est à propos de ça que le psaume dit ils ont des yeux et ils voient. Mais écoutez. Vraiment, vous êtes désarmant. Et j'ai pas le temps maintenant, mais il me faudrait le temps qu'il faut pour essayer de vous décrire ce qui se passe actuellement sur la planète, et en particulier dans la civilisation européenne donc, qui est en question, et qui est le foyer.
Ça mime et tout ce machin-là.
Non, ça, c'est des analogies. Mais enfin, nous vivons évidemment une période de mutation à travers des catastrophes. Et alors, les rabbins ont toujours interdit de faire des correspondances détail à détail. C'est interdit par les rabbins. Les prophètes parlant des événements de fin des temps n'en parlent toujours que de façon globale. Ceux qui cherchent des correspondances de détail à détail, c'est interdit. Je n'ai pas de terme de force. Hein. Et vous avez en particulier toute une lettre de Maïmonide qui s'appelle Yeret Teman. Lorsque les juifs du Yémen, à l'occasion d'un faux messie dont j'ai oublié le nom, comment il s'appelait ? Celui du Yémen. Les Juifs du Yémen ont demandé à Maïmonide son avis. Il a dit entre beaucoup de choses et entre autres choses. Là, des prophètes n'ont parlé que de manière globale. Chercher des signes dans le détail, c'est le signe de la plus grande des superstitions. Je ne dis pas ça pour toi, je dis pour le comportement de l'œuvre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, ces correspondances. Mais il n'y a que ceux qui sont capables de les étudier, qui les étudient lorsqu'on les étudie. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est le mystère. Et de manière générale, c'est d'une massivité telle, c'est énorme. Tout ce que le Talmud a enseigné doit se comprendre par le biais de cette massivité. Et moi je crois, ça je vous cite le Rav Kook, 2000 ans c'est énorme. Il n'y a pas de chose plus massive que ça. Que ça arrive au bout de 2000 ans, c'est l'événement qui est à lui-même son propre signe. Chercher un signe autre que l'événement, après 2000 ans d'attente et d'espérance, c'est pire qu'être de peu de foi. C'est être du contraire de la foi. Après 2000 ans, ça arrive et on cherche des signes. Alors on met des signes allemands. Mais.
La grandeur, la massivité de voilà. La Shoah de l'État d'Israël. Mais peut-être que je sais pas ce qui est interdit d'essayer de voir.
Je suis d'une génération qui a été contemporaine des catastrophes pires que les diplômes. Nous sommes d'une. Et ça continue.
Par exemple, la Seconde Guerre mondiale, comme j'avais le cité.
Mais ça continue. Je ne sais pas si vous rendez compte de ce qui se passe sur la planète. Parce que vous êtes dans des oasis à l'abri de. Et essayez d'ouvrir la télévision sur les images de Sarajevo, enfin de la Yougoslavie, de l'Europe, d'accord. Et sur ce qui se passe au niveau du sida, je ne sais pas, oui. Et au niveau des tâches de ce genre.
D'accord. Bon.
Alors, à partir de ce moment-là, chercher des correspondances de détails, non. C'est une mentalité qui n'est pas biblique. Donc, c'est clair ce que je veux dire. Ça me rappelle une phrase de Mme de Valencia, un de ses étudiants à Barilane, elle nous l'a raconté. Il y a des gens vraiment qui, avec une loupe, cherchent des signes messianiques. Alors, tiens, j'en ai trouvé un. Et une pâquerette à sec feuille. Je ne sais pas si vous voyez à quel niveau de pâquerette ça se passe. Il faut se méfier de ça. C'est encore une fois la massivité de l'événement qui est en lui-même son propre signe. Je répète, cette phrase, elle vient du Rav Kook. Cet entêtement de chercher, de couper les cheveux en 18 et de se demander, tu es sûr, perdu.